Bonjour à chacun. Je connais quelques visages, même masqués. Enchanté pour les autres. Vous avez les meilleures salutations de l'Église de Lyon, comme il convient de le dire. Un pasteur, pourquoi faire ? Oui, très bien. Oh là là ! Tout est magnifique dans cette Église. Un pasteur, pourquoi faire ? Un pasteur, à quoi ça sert ? Comment on le devient ? C'était pour répondre à cet ensemble de questions que vous aviez fait venir. C'était il y a 9 ans de cela. Déjà, je ne sais pas qui était là à l'époque, Étienne Lermeneau. À l'occasion du discernement que vous meniez, pour faire suite au ministère pastoral de Samuel, dont on parlait tout à l'heure, Samuel Pereira, et pour savoir si vous souhaitiez faire appel à Éric Le Guéhennec comme pasteur de votre communauté. Nous connaissons la suite de l'histoire et vous pouvez collectivement, comme Samuel l'a dit tout à l'heure, ou ça a été rapporté plus tôt, en être fier. Une croissance que les églises de notre fédération vous envient, notablement soutenue par un projet d'église, une vision d'église qui est claire, qui est intentionnelle, est missionnel, un projet bâtiment maintenant abouti qui était ambitieux, je le découvre en vrai, enfin, j'avais suivi les photos, les vidéos, j'avais soutenu Éric dans sa persévérance et je dois dire que je suis un peu jaloux. Et c'est vrai, tout simplement bravo, bravo pour la foi que vous avez manifestée collectivement, ensemble, vous avez là un bel outil pour avancer dans la mission que le Seigneur vous a confiée ici à Clermont. Et bravo à Éric pour la vision que tu portes. Il est où, Éric, du coup ? Voilà. Parfois, je m'adresserai un tout petit peu à toi, je te repère. Bravo pour la vision qui le porte, avec les responsables de la communauté, pour la persévérance, pour le cœur pastoral et missionnaire manifesté. On voudrait en avoir davantage. On parlait du dimanche des vocations tout à l'heure, des pasteurs de cette trempe. Je le dis publiquement, qu'ils n'en rougissent point. Vous avez fait le bon choix il y a 9 ans de cela. Mais voilà, voilà qu'Éric, et vous avec, êtes victime de votre succès. Cette croissance voulue, elle est là. Le bâtiment pour la recevoir, il est là. Et ça ne va pas s'arrêter là. Dieu vous a pris au mot. Alors, comment continuer maintenant pour aller plus loin ? Si ce lieu de culte vous met au large pour quelque temps encore, c'est le costume pastoral qui est maintenant trop petit. Pour faire face à ce défi collectif, Éric vous l'a dit, au conseil d'église, en assemblée, je crois, je n'ai pas tout suivi dans le détail, il a dit en tout cas son désir, son besoin d'un soutien pastoral, d'une deuxième ressource pastorale à ses côtés pour mieux vous servir et surtout pour mieux servir votre projet, votre mission, votre vision commune. C'est aujourd'hui donc la raison de ma venue. C'est une commande, effectivement. Comment imaginer et vivre le pastorat à deux dans une église ? Comment ça peut marcher ? Est-ce bien raisonnable ? Quels bénéfices en tirer ? Quels écueils éviter ? J'ai intitulé ce message « Deux pasteurs, une seule chair ». Avec le désir de vous aider à avancer dans cette réflexion d'un vécu d'église avec deux bergers, deux pasteurs, ce n'est pas commun. C'est un modèle que nous ne connaissons que trop peu dans nos églises évangéliques que l'on pourrait qualifier classiques, très peu dans notre fédération d'église, en tout cas, qui compte, pour vous donner une idée, autour de 120 communautés, et sur ces 120 communautés, à ce jour, seules 2 églises sont dotées d'une équipe pastorale de 2 pasteurs, celle de Sartrouville avec le modèle, je reviendrai tout à l'heure, dessus d'un pasteur généraliste principal et d'un pasteur jeunesse, et notre église à Lyon, dont je suis pasteur, donc, avec 2 ministères pastoraux fonctionnant conjointement. C'est à ce titre, évidemment, aussi que je suis invité pour vous dire notre vécu. Nous disposons donc, si je pouvais avoir un verre d'eau, désolé, que de peu de référentiels, d'exemples sous nos yeux pour savoir comment bien préparer, penser et vivre les choses. Le fonctionnement habituel, viscéral, si j'ose dire, de nos églises, c'est un pasteur pour une église, et ça fonctionne plutôt bien. Alors, deux pasteurs, une seule chair, comment faire pour bien faire ? Juste une parenthèse, je vais faire tout ce que l'on n'enseigne pas en faculté de théologie ce matin ou à l'école pastorale dont je suis le directeur. Je vais faire une prédication thématique sans lire de texte biblique. Je ne vais même pas prendre des textes prétextes pour appuyer mon propos. C'est une prédication thématique que je fais pour répondre à la commande. Moi qui suis un fervent défenseur de la prédication textuelle, ça me fait un peu bizarre, mais je suis heureux de le faire pour vous. Ma réflexion ce matin sera donc nourrie de fait par mon expérience pastorale à Lyon, inscrite ces 10 dernières années dans un fonctionnement en équipe pastorale à deux pasteurs. J'ai été par deux fois... Super. Merci. Merci beaucoup. J'ai été par deux fois donc en binôme pastoraux, 5 ans avec le pasteur John Wilson, que plusieurs connaissent, et depuis 3 ans maintenant, avec le pasteur Kevin Lelevier, au service d'une église qui grandit, et on a des projets d'élargissement, je vous le dirai en conclusion. Mon intervention se construira donc en deux parties. La première, un pasteur, à quoi ça sert ? La deuxième, deux pasteurs, pourquoi faire ? Dans la première partie, je ferai un rappel qui me semble fondamental. Cette première partie sera un peu plus longue et la deuxième s'appuiera sur ce que j'aurais dit et ouvert dans la première. On se rappellera les grandes fonctions pastorales, du travail pastoral. Nourrir, conduire, prendre soin, selon la compréhension que nos églises, dans la Fédération Baptiste, ont du rôle pastoral. La deuxième partie, donc, deux pasteurs pour quoi faire, s'articulera autour d'une réflexion, partage d'expérience sur la façon de vivre ensemble ces missions pastorales, en débusquant, en mettant d'abord en relief les bénéfices qu'on peut en tirer, c'est là bien le principal, mais encore les écueils possibles. Première partie, donc, un pasteur, ça sert à quoi ? Ça fait quoi, un pasteur ? Qu'est-ce qu'Éric fait de ses journées ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est la blague habituelle, hors le dimanche, hors du dimanche. Je parlais de 3 grandes fonctions dans mon intro, telles que nous les définissons dans nos textes fédératifs. Je les image ce matin par 3 verbes donc, qui expriment le rôle du berger. Nourrir, conduire et prendre soin du troupeau. Et j'ajouterai, je vais le faire dans cet ordre-là. Premièrement, nourrir. Oui, premièrement, et j'insiste là-dessus, le pasteur, Éric, est appelé à donner au troupeau que le Seigneur lui confie une nourriture consistante, suffisante, solide, pertinente. C'est son travail, son premier travail. Il n'est pas d'abord le pasteur, l'écoutant, disponible, compassionnel, l'animateur de la communauté ou le manager d'une entreprise ecclésiale. Ce n'est pas d'abord ça, un pasteur, et ce n'est pas ça tout court. Le pasteur, c'est d'abord l'homme de la parole. C'est d'abord un théologien, c'est d'abord un prédicateur, quelqu'un qui prend le temps de scruter les Écritures, qui s'en passionne, qui lit, qui approfondit, qui se renouvelle et qui prend le temps de le faire parce que sa communauté lui donne le temps de le faire et lui demande de le faire. Karl Barth et John Stott, à sa suite, disaient dans une formule bien connue, le pasteur travaille avec la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Le pasteur, d'abord, est prédicateur de la parole. Théologien, j'espère que ce n'est pas un gros mot pour vous, théologien de son église locale. Il est à la fois un bibliste, un homme versé dans les Écritures, un homme ou une femme, on a vu des visages féminins dans la vidéo sur les vocations, et, deuxième gros mot, un prophète. C'est-à-dire quelqu'un qui est attentif à l'ère du temps, à la culture, à la société, au contexte dans lequel il est appelé à servir. La Bible dans une main, le journal dans l'autre, tout cela demande du temps. pour avoir une parole qui est aiguisée, qui oriente, qui stimule, qui déplace, qui bouscule parfois. Une parole qui est à la fois enracinée, une parole qui est en même temps actuelle, qui est pertinente pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Voilà ce que vous devez attendre de votre pasteur d'abord. Dans l'ensemble des charges que vous confiez à Eric, des moyens que vous lui donnez pour fonctionner, si j'ose ce terme, face à la vision ambitieuse qui est devant vous, que vous nourrissez et qu'il nourrit avec vous, laissez-vous, c'est une question que je vous pose, réellement à Eric le temps de consacrer, allez, j'ose dire un truc concret, 2 journées par semaine pour le travail biblique et théologique de fond, pour l'ensemble de ses préparations, prédications, études bibliques, support pour les groupes de quartier, travail de fond, c'est-à-dire ce travail de lecture, pour creuser, pour écouter Dieu, pour lire, pour écrire, pour faire à la fois l'exégèse des Écritures et l'exégèse de la société, du contexte dans lequel qu'il entoure, 2 journées par semaine. Les as-tu, Eric ? Ne réponds pas tout de suite. Parlez-en avec lui. Demandez-lui comment il vit son ministère. Notamment, je pose cette question en vue du recrutement de cette 2e ressource pastorale, évidemment. Je finis ce point en disant, et j'accompagne un certain nombre de pasteurs de situations, je participe également aux travaux de la commission des ministères, beaucoup de pasteurs, malheureusement, ne prennent pas ce temps, ou parfois ne le peuvent pas, prendre ce temps nécessaire pour se renouveler et tenir dans la durée, pour approfondir leur piété, leur réflexion. Ils fonctionnent, ils font tourner la boutique, servent quelques années, parfois servent des prédications réchauffées quelques années, puis changent de lieu de service usé, et beaucoup quittent tout simplement le ministère pastoral parce qu'ils ont donné plus qu'ils n'ont reçu. Il y a là un point de vigilance. Quand une église grandit, quand le pasteur se trouve débordé, notamment par une vision ambitieuse, s'il perd ce temps de ressourcement, il perd son troupeau avec. Soyez ensemble vigilants. J'ai pour ma part, après 8 années de service pastoral à fond dans une église en croissance, éprouvé le besoin, c'était il y a 18 mois, de reprendre un cycle d'études théologiques. En master de recherche, la Faculté libre de théologie de Vaux-sur-Seine, là où Eric a étudié, où il étudie encore. Et je bénis le Seigneur pour le conseil d'église de mon église qui m'y a encouragé et qui m'a donné, sans discuter, avec encouragement et plus généreusement que j'y pensais, du temps, un minimum 1 journée par semaine en dehors du ministère local pour avancer dans mes études. Et je le salue. Je salue ce conseil, son intuition, son intelligence, sa spiritualité de comprendre que c'est pour le troupeau et pour eux qu'ils ont fait ça aussi, pour que je tienne et que je sois pertinent sur la durée. Église, je finis sur ce point avec cette invitation. Prenez soin d'Éric comme il prend soin de vous. Donnez-lui le moyen de se ressourcer pour mieux vous nourrir sur la durée, de manière consistante, suffisante et pertinente. Le pasteur est un théologien, prédicateur de l'Évangile. Il est également un conducteur. C'est mon 2e point. Conduire le troupeau. Le texte de notre fédération sur le ministère pastoral, qui a été, on parlait du congrès tout à l'heure, voté au congrès, en congrès en 2000, je crois, le formule ainsi. Le candidat au ministère pastoral, il s'agit des critères de discernement pour savoir qui est apte à être appelé pasteur dans notre fédération. Le candidat doit pouvoir aider l'Église à avancer, favoriser l'engagement des uns et des autres et stimuler la capacité d'initiative de la communauté. Il est important que le candidat discerne bien ce qui distingue l'animation dans son rôle de direction spirituelle, de conducteur, de la prise de pouvoir qui impose à une communauté les vues personnelles du pasteur. Tout est dit, et plutôt bien dit, je crois, en lien avec notre ecclésiologie, notre conception de l'Église baptiste, que l'on appelle congrégationaliste, qui vise d'abord la maturité du collectif, la collégialité dans les décisions prises par le pasteur en lien avec les autres responsables de la communauté, conseil d'Église, anciens, et l'implication au-delà de tous les membres dans le discernement de la volonté de Dieu pour son Église locale. Dans une saine articulation, je vais le dire comme ça de manière synthétique, entre l'autorité d'un seul, le pasteur, de plusieurs, les responsables, et de tous, l'Assemblée. Ainsi, dans nos églises, le pasteur n'a pas vocation, et je sais qu'Éric ne fonctionne pas ainsi, à décider de tout, tout seul. Il demeure qu'une charge de direction spirituelle bien située lui est confiée, et elle est double, cette charge. Premièrement, le pasteur est celui qui est appelé à éclairer les responsables et le discernement communautaire quant à la vision, quant à la direction spirituelle, quant au projet d'Église, vous appelez ça comme vous voulez, et le faire à partir de l'Évangile, cet Évangile qui le travaille, cet Évangile avec lequel il est en contact au quotidien, la parole qu'il nourrit, à l'écoute des Écritures, de l'Esprit, du contexte dans lequel vous vivez ensemble votre mission. Et c'est pour ça que j'ai commencé d'abord par le premier point. Avant de conduire, c'est un homme de la parole. Il faut ordonner les choses ainsi. C'est là sa part fondamentale dans le ministère de direction spirituelle. Et permettez-moi de vous reposer cette question. J'espère n'être pas trop insistant, mais c'est une commande. Dans la phase de croissance dans laquelle vous vous trouvez, Éric dispose-t-il maintenant du temps nécessaire pour prendre ce recul nécessaire, se mettre à l'écoute de Dieu, à l'écoute des Écritures, oui, à l'écoute de l'Esprit, à l'écoute de la communauté, du contexte dans lequel vous vous trouvez, cette prise de distance nécessaire pour vous aider à discerner, pour vous éclairer. Il faut du temps pour cela, pour être pertinent et permettre à la communauté d'aller plus loin. Non pas pour lui dire ce qu'elle doit faire, mais pour être là en soutien, en éclairage. J'aimerais ajouter une autre chose. Non, on n'a pas le temps. Je passe au point suivant. Le deuxième aspect du rôle de direction spirituelle qui appartient au pasteur, je le crois, est celui, troisième gros mot, de manager, dans le sens le plus noble du terme. J'ai commencé en disant qu'il n'était pas d'abord cela, le pasteur, mais il est aussi cela si on comprend bien ce rôle et si on ordonne bien les choses. C'est-à-dire prendre soin des personnes engagées dans l'Église, en particulier les responsables d'activités, de départements, je ne sais pas exactement comment vous appelez ça, ici, veiller à ce que chacun soit à la bonne place, soit à sa place, reçoive, comme Éric, autant qu'il ne donne pour bien vivre son ministère, son engagement, le tenir dans la durée, être là aussi pour anticiper au contact de la communauté, de l'Église du quotidien, les besoins, les changements, consolider les équipes, arbitrer les conflits, mettre de l'eau, de l'huile dans les rouages, voilà, etc. Je passe rapidement là-dessus, sans minorer pour autant cette part du rôle pastoral, du ministère, qui est aussi utile que chronophage, soulignant par là, là encore, le besoin de ressources pastorales. Quand une Église grandit, quand elle atteint une certaine taille critique, le besoin d'ajouter, non pas pour qu'un deuxième ministère avec le premier fasse le travail à la place des membres, bien au contraire, mais pour aider chacun à trouver sa place dans la mission de Dieu, selon votre vision d'Église qui est belle, et à bien vivre son engagement de manière fructueuse et durable. Dans les églises anglo-saxonnes, qui certes disposent de moyens supplémentaire pour ceux qui sont un peu curieux ou ont déjà voyagé. Les staffs des églises, les équipes pastorales sont pléthoriques par rapport à nos moyens. Mais ils se donnent les moyens de leur croissance. Il est coutume de dire, donc, dans les pays anglo-saxons, que pour continuer à grandir, franchir des caps, des plateaux de croissance, il faut ajouter une ressource, un staff, que ce soit un pasteur, que ce soit un ministère jeunesse, que ce soit un diacre, que ce soit un ministère pastoral spécialisé, peu importe, à chaque tranche de 100 personnes présentes au culte supplémentaire. Sinon, la croissance, et c'est une observation empirique attestée, sinon la croissance, elle est bloquée. Parce que le collectif, on ne prend pas assez soin du collectif pour bien fonctionner, pour bien articuler le fonctionnement commun. C'est la réalité, je crois, malheureusement, de 95% de nos églises en France qui plafonnent. C'est la moyenne en France à 80 personnes au culte environ. Nous avons du mal à être dans une intentionnalité de croissance pour dépasser ces plateaux. Et vous le faites. Bravo, allez de l'avant, continuez, soyez audacieux pour inspirer d'autres communautés à votre tour. Le pasteur, un théologien qui nourrit, un berger qui conduit, mais aussi un serviteur qui prend soin. Troisième partie, je la fais plus courte encore avant de passer à la deuxième partie de mon message. Je passe rapidement dessus en rapportant simplement cette phrase qui m'avait marqué au début de mon ministère, je ne sais pas si tu l'as entendu, Eric, aussi c'était à l'école pastorale et c'était le pasteur Richard Gelin qui l'avait prononcé. Il est aujourd'hui à la retraite, il disait « Un pasteur, c'est quelqu'un qui a du temps pour toi. Du temps pour recevoir, du temps pour visiter, de la disponibilité pour écouter, consoler, accueillir, conseiller. » Encourager, être là souvent, dépositaire des confidences qui ne se disent pas aux autres, parce que c'est un homme à qui on peut faire confiance, parce que c'est un homme qui est tenu au secret professionnel, parce que c'est un homme qui est à l'écoute de l'esprit et qui est porteur du ministère de la grâce, un homme à qui on confie dans le lieu secret, sans jugement, tout un tas de situations de vie. Et Eric sait de quoi je parle. Difficultés conjugales, dépression, tentations suicidaires, galères professionnelles, difficultés financières, addictions diverses, alcool, pornographie, crises diverses, conflits dans l'Église. Voici ce qui fait le quotidien du pasteur. Qui n'est pas toujours su dans l'Église, et heureusement. Voilà ce qui fait que le ministère pastoral est lourd également, difficile. Le pasteur reçoit, il porte, parce qu'il a du temps pour toi. Parce qu'il est soumis, je le disais, au secret de la confession. Cette part du ministère, je finis là-dessus, elle est belle, mais elle est pesante. Elle est exigeante, chronophage, là encore, et quand une communauté grandit, c'est mon refrain dans cette première partie. Ben, cette part du ministère, elle augmente de manière proportionnelle. Et le pasteur ne peut pas, ne doit pas sacrifier cette part. Les besoins profonds du troupeau dont il a la charge particulière, même s'il n'est pas le seul, il y a, je le crois et je le plaide pour mon Église, le besoin d'un soin mutuel, d'une pastorale mutuelle dans les petits groupes notamment, mais il demeure que le pasteur a un rôle particulier face aux situations d'adversité, de solitude. C'est celui à qui l'on peut s'ouvrir. Je glisse maintenant vers la deuxième partie que j'ai donc largement commencé avec un certain nombre de questions. Vous l'avez compris, un pasteur, à quoi ça sert? Nous y avons répondu, je l'espère. Maintenant, deux pasteurs. Quoi faire? J'ai du temps encore, Eric. Je serai plus court sur cette deuxième partie. Des bénéfices à retirer. Et là, je vous parle d'expérience. 10 ans peu ou prou que je fonctionne à deux et je mesure mon privilège. Je suis jaloux de vos bâtiments et la plupart de mes collègues dans la fédération sont jaloux de ce que je partage, le ministère pastoral, à deux. Vraiment. Vraiment. Toutes les études en France et ailleurs montrent que la grande difficulté du ministère pastoral procède de sa solitude. On est seul face à ce qu'on nous confie, face à la charge et aux enjeux spirituels qui sont les nôtres. Bien sûr, il y a le conseil d'église. Au conseil d'église, et je vous le garantis, et Éric le pratique, nous n'allons pas dire tout ce que vous nous confiez précisément parce que vous nous avez fait confiance. Il y a un appel, une charge de direction spirituelle qui est sur nos épaules. Bien sûr, nous la partageons, mais c'est la nôtre. Et souvent, beaucoup de solitude, de questions. Les besoins sont croissants. Les besoins sont là, sont urgents. Les arbitrages, pas toujours simples à faire. Des bénéfices à retirer. Le premier, c'est tout simplement ce que j'ai dit tout au long de cette première partie. Partager la charge pastorale. Vous avez compris, en lien avec les trois grandes fonctions du ministère, et elles sont chacune importantes. Le temps à y consacrer pour bien faire est considérable. La charge pastorale partagée pour être un prédicateur de l'Évangile, un théologien sérieux, qui se ressource, qui se renouvelle, qui est pertinent, qui est consistant, qui a une parole chaque dimanche, qui va déplacer, qui est enraciné, etc. Tout ce que je vous ai dit, il faut du temps. Il faut du temps. Quand on le néglige, on est mort. Et la communauté dépérit. Je l'ai dit de la même manière pour la direction spirituelle. Prendre de la hauteur. Écouter Dieu. Écouter la communauté. Écouter l'esprit, le contexte. Ça prend du temps. Prendre soin de l'église du quotidien. Être un bon manager, ça prend du temps. Prendre soin. Écouter, accueillir les confidences, encourager, consoler encore davantage. Quand une église passe le cap, je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui, c'est peut-être difficile avec le Covid, je n'ai même pas demandé exactement à Eric, en tout cas je sais que vous l'aviez dépassé le cap des 100. Prenez le bon aiguillage et je sais que vous allez dans cette direction, je vous y encourage. Si vous voulez continuer à grandir, à croître et qu'Eric tienne dans la durée de pasteur, ce ne sera pas de trop. Pour partager la charge pastorale, ces trois fonctions pastorales qui demandent du temps. Deuxième point, deuxième bénéfice, qui est une extension du premier, eh bien, à deux, j'allais dire c'est mieux, oui, dans le vécu d'un vis-à-vis, de partage, de prière. Ça, c'est ce que je disais sur la solitude. Et je le vis face à la complexité des situations, face aux enjeux. On a besoin d'échanger, on a besoin de vider notre sac, on a besoin parfois de pousser un coup de gueule, on a besoin de relire des situations, on a besoin de la sagesse de l'autre, on a besoin de dépersonnaliser un certain nombre de choses. On a besoin d'être encouragé, on a besoin de prier. Je l'ai vécu diversement avec John, avec Mathieu Moury, que vous avez vu à l'écran, c'est celui qui avait ses pieds dans le feu. Vous vous souvenez, il a été avec moi plusieurs années, il disait 4 ans à Lyon en stage. On a vécu avec un positionnement différent, mais un joli compagnonnage qui m'a fait du bien dans une période difficile de la vie de l'Église. Et puis Kevin est arrivé, on a même fonctionné à 3 pendant une année et demie, c'était super. C'est un bien inestimable. Je le redisais, pour pouvoir retrouver du souffle, de l'élan, quand on est chargé, quand on a envie de plus rien faire, dédramatiser, etc. Je pourrais dire beaucoup de choses. Enfin, le troisième bénéfice lié au fait d'avoir une équipe pastorale, c'est la complémentarité. Complémentarité des caractères, des dons, des approches, des lectures, des sagesses, des grâces reçu. Éric, dont j'ai fait l'éloge tout à l'heure, avec la plus grande des sincérités, ce n'était pas une commande, ça. Je suis libre. N'a pour autant, je le crains, pas la totalité des dons dans toute leur plénitude. dans les trois fonctions pastorales décrites dans la première partie, sans vouloir le diminuer, il y a peut-être des points faibles. Et il se pourrait qu'un second ministère puisse venir le compléter utilement sur tel ou tel aspect. C'est quelque chose que j'ai expérimenté pour le bien de l'Église dans mes collaborations respectives, soit que je complétais mon collègue, soit qu'il me complétait, l'espace me manque ici pour développer, mais ça m'amène à mon deuxième point, deux pasteurs, des écueils à éviter néanmoins, des pièges à débusquer. L'écueil principal à éviter, et je vous encourage vraiment, et j'ai déjà commencé à le faire en amont avec Eric et avec le conseil de votre église, on a déjà eu un temps de rencontre, c'était quand ? En avril. Eh bien voilà, c'était il y a un an et un peu plus. Un écueil qui génère pas mal de conflits et d'échecs dans les collaborations à deux pasteurs. Hein, ce n'est pas toujours simple. Pas toujours simple si ce n'est pas bien préparé, si ce n'est pas bien pensé par l'Église en amont et par les pasteurs dans leur vécu. C'est l'écueil simplement, le risque qu'ils se marchent l'un et l'autre sur les pieds. Qu'ils entrent en concurrence. Qu'ils ne sachent pas exactement, pas forcément au clair sur leur vocation, leur identité, leur couloir respectif, leur lieu de concertation, parce que ça n'a pas été pensé ou mal pensé, qu'il y ait conflit. J'en ai observé un certain nombre, même accompagné plusieurs, parce qu'il n'y a pas eu le référentiel, parce qu'il n'y a pas eu les outils également en amont. Très rapidement, schématiquement, il existe, et je vous le soumets à votre réflexion pour la prochaine étape qui est devant vous, quatre manières de penser, d'organiser la collaboration pastorale dans une équipe pastorale de deux ou plus d'ailleurs. Un, le modèle de la spécialisation. En général, c'est un pasteur généraliste et un ministère spécialisé. C'est souvent qu'on a fait comme ça en Suisse, en France, quand une église grandit. On fait appel, par exemple, à un ministère jeunesse, un pasteur jeunesse, un responsable jeunesse à côté du pasteur de la communauté, du pasteur qui demeure généraliste sur les trois fonctions que je décrivais tout à l'heure. Deuxième modèle, celui de l'indifférenciation égalitaire, c'est comme ça que je l'appelle. L'idée, et je me mouille un petit peu, les autres modèles me semblent tout à fait justes, celui-ci, c'est là où on rencontre toutes les difficultés, les échecs, les blessures, génère pas mal de conflits. En gros, on dit à deux pasteurs, vous êtes peu ou prou les mêmes, vous êtes appelés sur les mêmes territoires, débrouillez-vous ensemble, dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, vous allez vous débrouiller et ça va être super, vous êtes sanctifiés, tout ce que vous voulez. Ça n'a pas été pensé, on n'a pas dit à l'un et à l'autre ce sur quoi on l'attendait et c'est souvent une collaboration difficile, pas toujours, mais souvent. Troisième modèle, le modèle hiérarchique, il est plus clair, il fonctionne bien, je crois. On va le retrouver dans le monde anglo-saxon, d'ailleurs, dans les églises type en France pentecôtistes charismatiques qui ont atteint une certaine taille critique, le modèle hiérarchique avec un pasteur principal, un ou des pasteurs adjoints dont l'autorité procède du premier, le premier organisant le travail de chacun, etc. etc. Les uns et les autres pouvant être assez généralistes sur les fonctions pastorales, visites, entretiens, prédications, mais il y a un big boss, il y a un chef, il y a celui qui ordonne, celui qui a l'autorité. Quatrième modèle, qui est probablement un modèle intermédiaire, c'est celui que nous avons choisi de vivre à Lyon. Ce n'est pas le seul, encore une fois, ce n'est pas forcément le meilleur, c'est celui qui nous semblait adapté à notre contexte et à notre projet, que j'appellerais le modèle complémentaire. C'est celui que je vis donc actuellement avec Kevin Lelevier. C'est l'idée que nous sommes tous les deux pasteurs, pleins et entiers. Il n'y a pas un pasteur principal et un pasteur annexe, accessoire, bis ou je ne sais quoi. Kevin, à mes côtés, est pleinement pasteur. Nous partageons une même dignité pastorale sur tous les lieux, les fonctions dont je parlais, enseignement, direction, accompagnement du troupeau. Nous sommes ensemble. Il y a des lieux de concertation et en même temps, et l'espace me manque ici pour vous dire, je l'ai partagé au conseil de votre église, le process qui nous a amené à définir nos cahiers des charges respectifs nous avons des profils différents. J'ai demandé, je dis juste ça, au conseil de mon église, alors que nous pensions à recruter un deuxième pasteur, à nouveau, je leur ai dit, écoutez, c'est à vous de me dire ce que vous attendez de moi et qui je suis pour vous. Quels sont mes dons, quelles sont mes qualités, pas pour me flatter narcissiquement, mais pour demeurer à ma place. Je les ai laissés travailler ensemble et ils m'ont dit ce qu'ils attendaient de moi. Et en conséquence, je leur ai permis de dire ce qu'ils attendraient d'un autre à mes côtés. Et on a travaillé en amont, défini un profil, un cahier des charges, donné ça à la commission des ministères. Et dans la grâce de Dieu, nous avons eu un profil pile au bon moment qui tombait pile dans les clous de ce que nous attendions. Et je ne suis pas déçu avec mon collaborateur. Je le dis très rapidement, en gros, si nous partageons effectivement les grandes fonctions pastorales, je suis davantage attendu sur la fonction de leadership et de conduite globale, en lien avec mon collègue et le conseil de l'Église et de l'Assemblée, bien sûr, sur les missions de représentation extérieure. Mon collègue Kevin va être davantage, en termes d'équilibre, en tout cas dans tout ce qui est discipula, dans tout ce qui est développement des petits groupes, des groupes de maison, c'est son travail, c'est son job, et il le fait super bien, et dans tout ce qui est suivi de la diaconie de notre abège au niveau lyonnais. Quel modèle est adapté à votre église, à votre projet, à votre contexte ? Ça, c'est vraiment à vous de travailler ça. J'ose juste vous suggérer, si ce n'est pas déjà fait, de commencer peut-être par là où j'ai commencé, avec le conseil. Dites à Eric ce que vous attendez de lui. Dites ce que vous reconnaissez en lui. Et c'est l'occasion d'un encouragement également. Et dites, du coup, ensuite, quel profil complémentaire vous attendez, vous avez besoin pour avancer, faire avancer ce beau projet d'église clair, intentionnel et missionnel que vous avez. Je finis. J'aurais fait 35 minutes, Eric. Il m'a dit, Eric, 30 minutes. Alors ce matin, je lui ai dit, j'ai beaucoup de choses à dire. Je peux faire combien au max ? Il me dit 35 minutes si t'es intéressant, 40 si c'était très intéressant. J'ai considéré que j'étais intéressant. Je vise 35 minutes, mais je les déborde un peu, légèrement. Je finis en finissant la métaphore conjugale. Deux pasteurs, une seule chair. Se marier, vous connaissez la formule ? Se marier, il y en a plein, hein, de formules avec. Hein. Mais se marier, notamment, c'est générer, c'est se créer des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul, des enfants en gros. Pourquoi je dis ça ? Recruter un deuxième pasteur, c'est tout le bien que je vous souhaite. C'est s'exposer encore au risque de la croissance. C'est s'exposer au risque que le costume pastoral, même à deux, soit bientôt, je pèse mes mots, quand je vous regarde ce matin en contexte sanitaire, bientôt, à nouveau trop petit. Je ne sais pas quand. Je préfère vous prévenir du risque. Nous, à Lyon, et je finis vraiment là-dessus, là, nous sommes en train de réfléchir, même en contexte, dans ce contexte sanitaire, à l'élargissement de notre équipe. Pour deux raisons. La première, c'est que Mathieu, l'homme du feu tout à l'heure, là, est parti. Il nous aidait bien, c'était un stagiaire, je prenais du temps à le former, mais voilà, une belle ressource. Et moi-même, je suis passé bientôt sur un 50% au service de la fédération dans la direction de la formation et de l'école pastorale. Mais en Église, on s'est décidé, la fin mars, un projet ambitieux, on va recruter deux nouvelles personnes, en plus des deux pasteurs. Demi-temps, pour commencer. Un poste de coordinateur, un diacre, en quelque sorte, qui va travailler sur le soin de l'Église, la deuxième fonction de direction spirituelle que je vous disais, qui est chronophage. Prendre soin de l'Église du quotidien, suivre les responsables, gérer les événements, la communication, etc. On rêve d'un mi-temps là-dessus. Si vous connaissez quelqu'un, vous me dites. Et un deuxième mi-temps, un responsable enfance-jeunesse, pour prendre soin des petits, des ados, des familles, des parents. Alors que le Seigneur vous conduise, vous créez des problèmes, eh bien tant mieux. Pour le meilleur et pour le pire, on pourrait dire plein de choses. Et bravo. Bravo pour votre foi, pour votre ambition, celle que vous manifestez, celle qui va inspirer d'autres également. Le Seigneur va vous honorer. et multiplier la vie au milieu de vous. 38 minutes. Amen. Je m'en arrête là donc.